Oui, merci pour toute cette équipe qui s'est engagée pour nous aider, nous conduire dans la louange. Vous êtes merveilleux, c'est un beau service pour notre communauté, un grand merci. Et j'ai l'honneur d'accueillir Nicolas, Priscille. Nicolas, Michel, pardon. Oh là là, j'ai fait une erreur. Bienvenue, Nicolas. Je cherchais ton épouse, mais elle est descendue avec les enfants. Hein. Bien, on va quand le haut. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu vois cette communauté devant toi, Michel ?
Nicolas.
Nicolas.
T'as le micro, ah, j'ai le micro. Non, tout d'abord, je suis reconnaissant qu'il pleuve, comme ça les gens ne sont pas partis en week-end. Et puis, je me réjouis de découvrir avec vous ce que Dieu veut faire dans notre communauté et au travers de notre communauté. Et je suis touché par la foi de chacun d'entre vous, parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes déjà avec Priscille, et par votre engagement. Je prie qu'aujourd'hui Dieu nous parle au travers de sa parole.
Oui, je vais prier aussi pour toi maintenant. Bien oui, Père Céleste, merci pour Nicolas ici présent. Nous libérons la puissance de l'Esprit Saint sur Nicolas, qu'il ait la liberté de nous enseigner au travers de sa parole. Merci pour son service, merci pour son humilité, et merci parce que tu l'as choisi comme pasteur avec son épouse pour notre communauté. Et nous le bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci. Je vais lire dans Ruth, chapitre 1. Il y eut une fois, au temps des juges, une famine dans le pays. Du coup, un homme de Bethléem de Juda émigra dans la campagne de Moab. Lui, sa femme et ses deux fils. Cet homme s'appelait Élimélec. Sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kilion. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent donc dans la campagne de Moab et vécurent là. Et voici que mourut Élimélec, le mari de Noémie. Et elle resta, elle et ses deux fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une s'appelait Orpa et la seconde Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Malon et Kilion moururent aussi. Tous les deux. Et cette femme resta sans ses deux enfants ni son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab. Car elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Aussi partit-elle de la localité où elle vivait avec ses deux belles-filles. Se mirent donc en chemin pour retourner au pays de Juda. Mais Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune chez sa mère. Que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi envers les défunts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un état à chacune son mari. » Et elle les embrassa. Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent, puis elles lui dirent, « Non, avec toi, nous retournerons à ton peuple. » Mais Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi ? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris ? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, j'ai de l'espoir. Oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils. Est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils aient grandi ? Est-ce que pour autant vous abstiendriez d'appartenir à un homme ? Non, mes filles, car pour moi, l'amertume est extrême, plus que pour vous. C'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors elle dit, « Vois ta belle-sœur, elle s'en est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Mais Ruth dit, ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi, et plus encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Voyant qu'elle s'obstinait à aller avec elle, elle cessa de lui en parler. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Voilà que lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut en ébullition à leur sujet. Les femmes disaient « C'est Noémie ?» Mais elle leur dit « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le puissant m'a rendu amer à l'extrême. C'est comblé que j'étais parti et démuni que me fait revenir le Seigneur. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie, alors que le Seigneur a déposé contre moi et que le puissant m'a fait du mal ?» Ainsi revint Noémie, et avec elle Ruth, la Moabite, sa belle-fille, celle qui est revenue de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Vers quoi est-ce que vous vous tournez lorsque vous avez des difficultés ? Moi, j'ai un ami fidèle dont Patrick a parlé dimanche passé. C'est l'inquiétude. Il est toujours là pour m'accueillir et me réconforter. Il m'entraîne à sa suite dans le souci, puis l'anxiété, puis la déprime, et parfois dans ma vie, même dans la dépression. Cet ami me rassure parce que, en m'inquiétant quelque part, je reste maître à bord. Je suis à bord d'un bateau qui coule, mais je suis toujours le maître. Mais derrière cet ami se cache un ogre qui me dévore. Et vous, vers quoi est-ce que vous vous tournez lorsque vous êtes dans les difficultés ? Elimelech, le mari de Naomi, faisait face à une terrible menace, la famine. Bon, au jour d'aujourd'hui, en Occident, la famine, ça paraît quelque chose d'un peu abstrait. Hein. Il y a des personnes ici qui viennent, il y a en tout cas une personne qui vient d'Afrique, que je connais ici. Il sait peut-être mieux que nous qu'est-ce que c'est que la famine. La famine, c'est une menace terrible, c'est le spectre même de la mort. Alors Elimelech, face à cette menace, il décide de se tourner vers les montagnes de Moab. Bon, Moab, voilà, c'est un peu comme si je décidais aujourd'hui de déménager à Lausanne ou à Berne. Lausanne, c'est mieux si je voulais déménager à Genève ou à Berne. Lausanne, c'est mieux. En tant que bon vaudois, hein, je préfère habiter à Lausanne, mais pourquoi pas aller à Genève si c'est nécessaire. C'est pas vraiment ça. Si vous voulez comprendre ce que c'est le choix d'Elimelech, vous pouvez plutôt penser à un Français qui décide de déménager en Allemagne en 1940. Laissez-moi vous rappeler un tout petit peu les relations israélo-moabites. Bon, déjà, au départ, c'est un peu mal parti parce que Moab, la Bible nous dit qu'il est le fils d'une relation incestueuse entre Lot et l'une de ses filles. Ensuite, souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël était en exode, donc dans une situation de précarité, de faiblesse, ils ont demandé à Moab s'ils pouvaient juste traverser leur pays. Ils ont refusé. Bon, Dieu avait dit de ne pas attaquer Moab, parce qu'ils ont quand même des liens de parenté. Il a dit, vous les laissez tranquilles, vous les contournez. Alors, ils les ont contournés. Et puis, par la suite, ça n'a pas empêché Balak, le roi de Moab, d'appeler le prophète Balaam pour maudire Israël. Ok, on continue. Avant de croiser le Jourdain, vous vous souvenez que le peuple d'Israël s'est installé dans les plaines de Moab pendant quelque temps, pour se préparer. À ce moment-là, il y a des femmes moabites qui sont venues dans le camp, et puis il y a des hommes du peuple d'Israël qui ont eu des relations sexuelles illicites avec ces femmes, et qui, du coup, se sont aussi mis à adorer leur Dieu. Le résultat, c'est que Dieu a envoyé une plaie sur le peuple qui a tué 24 000 personnes. Bon, ok. Ça commence à faire lourd déjà, hein. Ensuite, dans Deutéronome, ce grand message de Moïse au peuple d'Israël avant qu'ils entrent dans la terre promise. Il leur dit, Dieu a décidé qu'aucun Moabite ne ferait partie de l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Donc même si un Moabite habite parmi eux, et que 10 générations plus tard, ils sont toujours là, ils n'ont toujours pas le droit de faire partie de l'assemblée. Donc pour comparaison, les Édomites et les Égyptiens, qui ne sont pas franchement des amis pour le peuple d'Israël, ils ont le droit d'entrer dans l'assemblée à partir de la 3e génération. Il y a quelque chose de spécial là avec Moab. C'est vraiment un peuple ennemi de manière sérieuse. Alors finalement, peu de temps avant la période qu'on a ici avec Noémie et puis Elimelech, il y a un roi moabite qui s'appelle Eglon, qui attaque Israël et puis qui gagne sur eux et qui règne sur le pays pendant 18 ans. Ça laisse aussi des traces dans la mémoire collective, hein, 18 ans de domination étrangère. Donc en résumé, Elimelech, face au danger de la famine, il se tourne vers les ennemis jurés d'Israël. Il y a aussi une dimension spirituelle à son choix. Non seulement Elimelech se réfugie vers un peuple ennemi, banni par Dieu de son peuple, mais il se dirige vers un peuple qui adore un certain Dieu. Vous savez que dans le Proche-Orient ancien, les peuples avaient différents dieux, mais chaque peuple avait son dieu national. Et il était considéré que ce dieu possédait la terre du peuple. Alors, pour ça, cet aspect que non seulement Elimelech se réfugie chez un peuple ennemi, mais il se réfugie dans un peuple qui appartient à une certaine divinité, donc il y a un aspect spirituel aussi, on le voit dans une remarque que fait Naomi à Ruth plus tard. Elle va dire, ta sœur, elle est rentrée chez son peuple et chez son Dieu. Ruth, quand elle insiste pour suivre Naomi, elle va dire, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Moab, il est appelé le peuple de Kemosh. Alors, rien que le nom, déjà, ça ne laisse pas présager quelque chose de très bon. Hein. Kemosh, c'est un de ces dieux qui dévore les enfants. Laissez-moi juste vous rappeler un épisode qui nous est conté dans Deux Rois et aussi sur une stèle moabite, la stèle de Mesha, qui est au musée du Louvre. Israël a attaqué Moab et ils ont pris du terrain. Et à ce moment-là, le roi Mesha, il s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment très menacés, qu'ils allaient perdre la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son propre fils à ce dieu Kemosh. Et la Bible nous dit en ces termes, suite à ça, une grande colère s'est abattue sur le peuple d'Israël et ils ont dû reculer. Et on sait par cette stèle qu'ils ont non seulement repoussé Israël jusqu'à leur frontière, mais qu'ils ont réussi à prendre même du terrain sur le territoire d'Israël. Donc c'est une divinité. Je ne sais pas comment on le comprend, peut-être c'est un esprit mauvais, peut-être c'est une de ces autorités, puissances dont parle Paul dans les Éphésiens. Mais c'est quelque chose de terrible et qui a une puissance. Donc lorsqu'Elimelech se réfugie en Moab, c'est aussi chez ce Dieu-là qu'il se réfugie. Bon, à la base, Elimelech s'était dit, je vais juste aller là-bas pour un petit moment, on attend que les choses se règlent. Il y a une escalade qui se passe, au fait. Le premier verbe qui est utilisé dans l'hébreu, c'est, il part en Moab pour un séjour, pour séjourner, un séjour temporaire. Ensuite, il est dit, un autre verbe hébreu, donc le premier c'est gour, je sais qu'il y a des personnes ici qui savent l'hébreu. Le deuxième verbe c'est haya, ils sont restés sur place pour y vivre. Ensuite, Elimelech est mort. Les fils se sont mariés à des Moabites. Et là, un troisième verbe est utilisé, c'est « yachav ». Ça veut dire littéralement « s'asseoir ». Ils se sont assis là, ils se sont installés pour y vivre. Donc on voit qu'au début, ils voulaient juste y aller pour un petit moment et finalement, ils se sont installés. Les conséquences ont été terribles. Il a fui la famine, le spectre de la mort, pour les champs verts de Moab. Et ce qu'il a obtenu à la fin, c'est que lui-même est mort ainsi que ses deux fils. J'aimerais nous poser une question que j'ai déjà posée deux fois. Et nous, vers quel secours nous tournons-nous dans les difficultés? Y a-t-il un Moab dans lequel nous nous réfugions? Y a-t-il un Kemosh chez qui nous cherchons secours? Dans mon cas, regardez la gradation des verbes. Je fais juste un petit séjour d'anxiété. Puis ensuite, je reste pour y vivre et c'est la déprime qui s'installe. Et puis, quelquefois dans ma vie, je me suis yachav, je me suis assis dedans et là, c'est la dépression qui a pris pouvoir sur moi et c'est très difficile d'en sortir pour ceux qui ont vécu ça. Seulement la puissance de Dieu peut le faire. Maintenant, il y a toutes sortes de Moab. Il y a toutes sortes de Moab dans lesquels nous pouvons nous réfugier. Certaines substances. La pornographie. La technologie. Le travail. Le déisme. Vous savez, le déisme, c'est Dieu a créé le monde comme un horloger. Il lance l'horloge, il crée l'horloge, il lance l'horloge, puis ensuite l'horloge, elle tourne toute seule. C'est comme ça que je peux me protéger des choses difficiles qui m'arrivent. C'est parce que Dieu, de toute façon, il n'agit pas dans ce monde. C'est que le hasard et la nécessité. Mais il y a un Moab dont j'aimerais vous parler maintenant, qui s'exprime dans la vie d'un autre protagoniste de cette histoire. C'est Naomi. Et ce sera aussi l'occasion de se poser la question, lorsque nous avons des difficultés, des souffrances, où est Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, dans la première partie du récit, ce sont les hommes qui prennent toutes les décisions. Elimelech, il décide de partir en Moab, il prend sa famille avec lui. Il meurt, ses fils décident de se marier, ils se marient. Naomi, on n'en sait rien de ce qu'elle pense de tout ça. Alors la première action, enfin, quand tous les hommes sont morts, ben voilà, c'est Naomi qui doit prendre les choses en main. Et la première action qu'elle fait, c'est qu'elle se lève. Hein, on a dit, le dernier verbe c'était « yachav », hein, « je m'assieds ». Et ensuite, le verbe qui est utilisé là, c'est « kam », ça veut dire « se lever ». Elle se lève, elle se tourne vers le pays d'Israël et elle commence à partir. Elle retourne. Elle prend ses belles filles avec. Il n'y a pas de discussion au début. Elles marchent les trois ensemble. Elles sont en train de descendre les montagnes de Moab. Vous savez, il y a la montagne de Moab, et puis ensuite il y a une plaine, la plaine du Jourdain, puis on peut remonter de l'autre côté pour aller à Bethléem. On voit les montagnes de Moab depuis le village de Bethléem, et réciproquement. Elles sont en train de descendre ces montagnes. Et puis, tout d'un coup, Naomi, elle s'arrête. Se tourne vers ses deux belles filles, puis elle leur dit, vous savez, retournez chez votre mère. Retournez dans la maison de votre mère. Elle proteste, elle dit, non, on va rester avec toi. Alors, il faut juste s'imaginer un tout petit peu quelle est la perspective de vie qu'il y a après, de manière humaine, hein, pour Orpa et Ruth. Elles sont en train de rentrer en Israël avec une veuve. Elles-mêmes sont veuves et elles sont d'un pays ennemi. A priori, ça ne paraît pas être une perspective super réjouissante. La seule raison qui fait qu'elles vont avec Naomi, c'est qu'elles sont fidèles. C'est leur belle-mère, c'est leur responsabilité de prendre soin d'elles. Mais là, Naomi, elle les délie, elle leur dit « Rentrez chez vous, vous n'avez pas besoin de rester avec moi. » Alors, maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on a parlé de l'aspect humain, ou sociopolitique, ou est-ce que ce sera mieux la situation dans ce pays ou dans celui-là? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste une question géographique ou politique, c'est aussi une question spirituelle. Le verbe qui est utilisé ici, de nouveau, est très important. Naomi dit « retournez chez votre mère ». Elle dit « non, nous voulons retourner avec toi en Israël ». Ce verbe, c'est « shuv ». Et puis, alors dans son sens transitif, il peut avoir un sens physique. Ça veut dire « se tourner » ou « retourner quelque part ». Il a aussi un sens spirituel qui peut être « se détourner de Dieu pour se tourner vers le mal ou une idole ». Ou se détourner du mal et d'une idole pour se tourner vers Dieu. Dans quel cas, la Bible traduit par se repentir. C'est le verbe de la repentance, shuv. Il a aussi un sens transitif qui veut dire ramener quelqu'un quelque part, ou quelque chose. Donc là, c'est le sens physique. On ramène, on déplace. Mais il peut avoir un sens spirituel qui veut dire convertir, donc ramener à Dieu, ou restaurer. Restaurer le bien-être physique, psychique, spirituel d'une personne. Alors, le narrateur ici, vous savez, dans le récit hébraïque, le narrateur, il se tient toujours en arrière. Il ne veut pas trop se montrer, mais ils aiment bien jouer aussi. Ils ont un sens littéraire extraordinaire, ces narrateurs du récit hébraïque. Et là, lui, il joue avec les différents sens du verbe « shuv ». Ce verbe, il apparaît 12 fois rien que dans le chapitre 1. Et il va apparaître encore de manière très importante dans le chapitre 4. On verra ça plus tard, pas aujourd'hui. Vous voyez, on a ces trois femmes qui sont là. Et maintenant, c'est un moment clé. Elles doivent décider où elles vont. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas juste une question de dans quel pays je vais habiter. Ce n'est même pas seulement la question de à quel peuple je vais appartenir? C'est la question de en quel Dieu je vais me confier. Est-ce que je vais me confier en Kemosh ou je vais me confier en Yahvé? Qu'est-ce que Orpa et Ruth ont vu jusque-là? Parce qu'elles ont habité avec des Israélites. Elimelech est mort. Elles ont été mariées pendant 10 ans, elles n'ont pas eu d'enfants. Leur mari est mort. Et maintenant, comment est-ce que Naomi interprète ces événements? Naomi, elle dit, c'est la main de Dieu qui s'est tournée contre moi. C'est de cette manière qu'elle parle de Yahvé. Alors on peut s'imaginer Orpa et Ruth. Voilà, il n'y a pas une situation très joyeuse qui les attend là-bas. Puis en plus, le Dieu qui s'occupe de ce peuple, il semble s'attaquer à des gens comme ça de manière arbitraire. On peut comprendre que Orpa elle fasse ses calculs et puis elle se dise bon ben peut-être que je vais retourner chez moi. Une remarque en passant, si nous, on n'a pas confiance en l'amour de Dieu pour nous-mêmes, et que Dieu prend soin de nous, c'est impossible de témoigner. Naomi, là, elle ne témoigne pas, elle n'arrive pas. Ce qui est intéressant, c'est que, au fait, elle n'a pas perdu complètement confiance en Dieu. Premièrement, elle dit à ses filles, « Retournez chez vous !» et que Dieu vous montre son amour comme vous avez montré de l'amour à vos mariés et à moi. Elle a confiance que le Dieu d'Israël, Yahvé, il va s'occuper de Moabites qui retournent en Moab sous la protection de leur dieu Kemosh. Donc là, elle a une foi quand même assez importante, hein, sur le fait que voilà, Dieu, il est le Dieu créateur. Il s'occupe de toute la terre. Aussi, quand elle entend que la famine s'est terminée en Israël, quelle est la phrase? La phrase nous dit « Les conditions météorologiques ont changé, la pluie est revenue. » Non, ce qui est reporté qui est la pensée de Naomi, c'est « Dieu a visité son peuple. » Dieu a visité son peuple. C'est le même verbe qui est utilisé quand Dieu visite Sarah pour lui donner la conception, ou quand Dieu visite Anna pour lui donner la conception. Il arrive, il voit, il visite et il transforme, il guérit. Elle a confiance pour ses belles-filles, elle a confiance pour son peuple, mais pour elle-même, elle a perdu tout espoir. Elle dit, même si j'avais de l'espoir, sous-entendu, j'en ai plus, j'en ai pas. Je vous ai dit que quand ils étaient positionnés là, hein, on va à gauche, on va à gauche, on va à droite, c'est une décision spirituelle. Au fait, Naomi, elle a décidé de rentrer, mais c'est que géographique pour l'instant. Elle se relocalise, elle déménage. Mais son cœur, il n'est pas revenu à Yahvé pour l'instant. Son cœur, il est enfermé dans l'amertume. Là, j'aimerais juste vous donner un petit peu la sensation de la phrase qu'elle dit quand elle rentre. Quand elle rentre à Bethléem, elle arrive, et puis il y a ces femmes qui disent « Mais est-ce que c'est pas Naomi ?» Ce qu'elle répond est extrêmement dur, et j'ai l'impression que l'hébreu, quelque part, communique plus cette dureté. Juste pour vous dire, le mot « mara », qui veut dire « amer », et après, il y a aussi un verbe qui va apparaître, « hémar », qui veut dire « causer de l'amertume ». « Altikrena li Naomi », ne m'appelez pas Naomi, Naomi qui veut dire, on n'est pas tout à fait sûr, soit c'est un diminutif de Naomi, Ya, qui veut dire, le Seigneur est mon délice, ou soit ça veut dire, la plaisante, ou ma plaisante, ne m'appelez pas Naomi. « Krena li mara, ki hemar shaddai li m'od » Appelez-moi amer, parce que le tout-puissant Shaddai m'a causé une extrême amertume. Ani meleha halarti, j'étais partie pleine. Verekam heshivani yave, mais vide, le Seigneur m'a fait revenir. Le verbe qui est utilisé là, c'est toujours ce verbe « shuv ». S'il n'y avait pas ce mot « vide », on pourrait comprendre « le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a converti, le Seigneur m'a ramené à lui ». Mais il y a ce mot « vide » qui montre que le verbe « shuv » est ici utilisé d'une manière physique. Il m'a ramené physiquement ici, « vide ». Lama tikrena li Naomi. Pourquoi m'appeler Naomi? Vayave anavi. Veshadai herali. Pourquoi m'appeler Naomi alors que le Seigneur a témoigné contre moi et que Shaddai, que le Tout-Puissant, m'a fait du mal? Bon, le narrateur, il joue toujours, il fait un peu d'ironie ici, parce qu'il n'arrête pas de répéter que Ruth la Moabite est rentrée avec Naomi, et puis Naomi, elle dit « je suis rentrée vide ». Il y a quelqu'un qu'elle ne voit pas là, à côté d'elle. Pour que ce retour de Naomi en Israël soit pas seulement un retour géographique, mais de cœur, il faudrait qu'elle redonne sa confiance à Yahvé, à Dieu. Puis vous vous souvenez, le dimanche passé, on a parlé de l'inquiétude. Je vous avais dit, faire confiance à Dieu au plus profond, c'est faire confiance que Dieu nous aime. C'est là que j'arrive maintenant sur le dernier point de ce prêche. Un thème très important du livre de Ruth, qu'on va encore développer plus par la suite, qui est un thème très important de toute la Bible. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si la personne est là, qui m'a dit « Ah, tu vas prêcher sur Ruth, alors tu vas probablement parler du chesed. » Moi, j'ai entendu un prêche. J'ai entendu un prêche sur Ruth. Genre, le mot chesed est sorti 50 fois, mais je n'ai toujours pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Bon, j'espère que je vais réussir à vous expliquer mieux. Chesed, alors c'est un de ces mots hébreux intraduisibles, ni en français, ni en anglais. On est obligé de paraphraser. Le cœur du mot, c'est amour. Mais c'est un amour qui soit crée une relation avec la personne, soit prend place dans une relation existante. Donc si vous vous promenez place de la Palue et puis que vous donnez 2 francs à un mendiant et que vous passez votre chemin, ça, c'est pas du chesed. C'est de l'amour, c'est gentil ce que vous faites, mais ça n'a pas créé un lien avec la personne. Le chesed, c'est un amour qui est fidèle. Ça engage envers la personne sur le long terme. Le chesed, c'est un amour qui est surabondant. C'est un amour qui va au-delà des devoirs. C'est pas, je ne vais pas juste faire ce que je dois faire, je vais faire plus. Donc il y a un côté gratuit, il y a un côté qui... C'est un amour qu'on ne peut pas mériter. Alors ce chesed dans la Bible, il s'applique des fois d'humain à humain, ou de Dieu à son peuple, ou de Dieu à toute l'humanité. Il est dit de Dieu que son chesed, son amour fidèle et surabondant, se propage sur 1000 générations, alors que son jugement se propage sur 3 ou 4 générations. Alors, on a vu que Naomi, elle croit que Dieu peut montrer cet amour fidèle, cet amour surabondant à ses belles-filles, même si elles retournent dans leur peuple et à leur Dieu. On a vu qu'elle croit que Dieu, il a montré ce chesed, cet amour surabondant à son peuple en éliminant la famine. Là, juste une petite parenthèse, la famine, c'est une des malédictions écrites dans l'Alliance dans le cas où le peuple deviendrait infidèle. Vous savez que dans la période des juges, le peuple d'Israël était dans un état de constante apostasie. Donc c'est bien probable que soit Dieu ait causé cette famine, soit Dieu ait permis en tout cas qu'elle arrive. Par contre, il n'est pas dit que le peuple s'est repenti. Dieu, il a juste décidé à un moment donné qu'il allait mettre fin à cette famine. Mais Naomi, à ce moment-là de sa vie, elle ne croit pas que Dieu peut encore lui montrer cet amour. Elle ne le croit plus, elle n'arrive pas. Pourtant, ce que le récit nous montre, c'est que Dieu, il est en train de démarrer quelque chose pour elle. Il attend, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il n'attend pas qu'elle se repente de s'être réfugiée dans ce peuple idolâtre. Il n'attend pas qu'elle se repente de son amertume. Vous avez vu, quand elle arrive, c'est « appelez-moi Mara ». Appelez-moi amer. Pourtant, Dieu est déjà en train de mettre en œuvre son amour pour elle. C'est un amour qui ne se mérite pas, le chesed. Je pense que ça vous fait penser à quelque chose. Un amour qui ne se mérite pas. Hein? La croix. On verra dans le 4e prêche sur Ruth quel est le lien de tout ça avec Christ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il utilise maintenant une personne qui, elle, croit, a confiance en cet amour. Cette personne, c'est une Moabite, une étrangère, qui a plus de foi que l'Israélite. Cette Moabite, elle a confiance que Dieu l'aime. Et puis, parce qu'elle a cette confiance, elle est capable d'aimer les autres. À 2 reprises dans le livre de Ruth, il est dit qu'elle a du chesed pour les autres, cette Ruth. Alors Dieu, il utilise cette Ruth pour communiquer son amour fidèle à Naomi. Mais pour l'instant, Naomi, elle est aveugle. Elle est complètement enfermée dans son amertume. Elle ne voit pas Ruth à ses côtés. Elle dit « Je suis rentrée vide ». Et ironiquement, il y a beaucoup d'ironie dans ce texte, à la fin du livre, les femmes du village lui disent « Tu es rentrée avec Ruth, et Ruth, elle a plus de valeur que 7 fils. » Elle n'est pas rentrée vide du tout. Alors, moi, j'aimerais maintenant conclure ce prêche en vous laissant deux questions. Premièrement, vous qui êtes dans les difficultés ou la souffrance, vers quoi ou vers qui vous tournez-vous pour avoir du secours? Est-ce que c'est un Kémosh ou est-ce que c'est Yahvé, le Dieu créateur? C'est une réflexion que vous pouvez avoir. Et c'est probablement, dans nos vies, souvent, c'est un peu un mélange des deux. La deuxième question, c'est vous qui êtes dans les difficultés ou la souffrance, voyez-vous les signes du chassed de Dieu dans votre vie? Voyez-vous l'amour fidèle et surabondant que Dieu est en train de mettre en œuvre dans votre vie? Est-ce que vous voyez la Ruth que Dieu a mise à votre côté? Est-ce que vous voyez cet amour qui est toujours là et qu'on ne mérite pas? Merci.